Il est 18h sur France Culture, le journal. Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La faillite du sidérurgiste British Steel menace des milliers d'emplois au Royaume-Uni. En France, la reprise d'Ascoval à Saint-Saulve n'est pas remise en cause, selon le gouvernement, mais les salariés s'inquiètent. Les élections européennes, les bureaux de vote ouvrent demain dans certains États de l'Union. Avec Marie-Pierre Vérot, nous tenterons de mesurer le poids des nationalistes. En France, un collectif d'universitaires suivra attentivement le débat télévisé de ce soir et il fera du legal checking. C'est s'assurer par exemple que les propositions des candidats relèvent bien de la compétence européenne. Enfin, l'intelligence artificielle doit rester au service de l'humain. 42 pays, dont ceux de l'OCDE, s'engagent à respecter certains principes comme la transparence et la mise en sécurité des données personnelles. Les autorités britanniques ont ordonné un placement en redressement judiciaire de British Steel. Le groupe qui a racheté l'usine d'Ascoval près de Valenciennes au début du mois a trop de difficultés financières et passe donc sous contrôle de l'État, Antoine Gignot.
La priorité, explique le nouvel administrateur, c'est de poursuivre les opérations. La société va continuer à approvisionner ses clients, le personnel sera payé et moi, dit-il, je vais étudier les options pour le futur. Des options qui pourraient inclure la fermeture du site de Scunthorpe, ouvert au 19e siècle et qui produisait jusqu'ici la quasi-totalité des rails des chemins de fer britanniques. L'incertitude liée au Brexit a fait baisser le montant des investissements et les commandes ont diminué de 25% pour faire face aux dépenses. British Steel a obtenu un prêt de 150 millions d'euros de l'État et voulait une rallonge, mais elle n'a pas été validée par le gouvernement. Les deux Français qui dirigent le groupe jettent donc l'éponge. Ce n'est pas la première fois. Habitués des investissements à risque, ils ont déjà accompagné jusqu'à la faillite la compagnie aérienne Monarch, les magasins My Local et le fournisseur d'électricité Comet.
Antoine Gignot, à Londres, Bercy se veut rassurant pour les 270 salariés d'Ascoval, à Saint-Saulve, dans le Nord. Le plan de reprise n'est pas remis en cause, selon le ministre de l'Économie. Bruno Le Maire promet d'ailleurs de recevoir les représentants des salariés d'Ascoval d'ici la fin de la semaine. Mais Bruno Kobzinski, élu CFDT et porte-parole de l'intersyndicale, reste méfiant et inquiet.
Bien sûr qu'on est inquiet lorsqu'on apprend que quelques jours après avoir été repris par un grand groupe, ce même grand groupe est mis en situation de liquidation judiciaire. Et je peux vous dire que l'ambiance est très tendue à l'intérieur de l'usine. Il ne faut pas oublier non plus que tout l'argent n'est pas encore là pour l'instant. Il y a encore 42 millions qui doivent arriver de l'Angleterre. Comment va-t-il arriver? Par qui va-t-il arriver? Aujourd'hui, il faut qu'ils viennent nous rassurer, de deux, nous expliquer ce qui se passe. Personne ne vient nous dire ce qui se passe. Et pour nous, ça, c'est inadmissible. Là, ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, c'est tenter de rassurer à outrance et de mettre de nouveau des faux espoirs dans la tête des salariés. Donc là, on est arrivé à un pic, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on voit des gens qui ont toujours été à l'extrême pour la reprise, quel que soit le repreneur, qui aujourd'hui tapent sur la table en disant « c'est bon, ça suffit, donnez-moi mes sous, je m'en vais ».
Bruno Kobzinski de la CFDT répondait à Ersin Lebovitch. Des perquisitions au siège de Casino à Paris et à Saint-Étienne. Le géant de la grande distribution a reçu la visite d'agents de la Commission européenne dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la libre concurrence. Et une deuxième entreprise a fait l'objet de perquisitions. Il s'agirait d'Intermarché. Les autorités européennes enquêtent sur l'ancienne centrale d'achat qui réunit les deux entreprises. Un cas qui a vu le jour en 2014 et s'est éteinte l'an dernier. Bonsoir Maxime Fayolle.
Bonsoir.
Alors que reproche la Commission européenne à Casino et Intermarché?
C'est difficile de le dire avec précaution car elle refuse de commenter une enquête en cours, mais c'est semble-t-il le comportement de ces entreprises dans le cadre de leur super centrale d'achat Inca qui pose problème, estime l'avocat en droit de la concurrence Boris Ruy.
Il pourrait leur être reproché d'avoir échangé entre eux un peu trop d'informations confidentielles et notamment les conditions d'achat qui étaient consenties avant leur alliance par chaque fournisseur à l'un comme à l'autre pour tout simplement s'aligner systématiquement sur les meilleures conditions.
En France aussi, cette super centrale d'achat est dans le viseur de la répression des fraudes depuis 2 ans. Signe que ces mastodontes de la négociation commerciale sont sur la sellette selon Maître Ruy.
Pendant très longtemps, l'autorité de la concurrence en France ou la Commission européenne partait d'un postulat que les alliances à l'achat, c'était forcément vertueux pour l'économie parce que ça permettait aux distributeurs de négocier de meilleures conditions d'achat et que de proche en proche, le consommateur en profitait. Aujourd'hui, la Commission, semble-t-il, essaierait de lutter contre un contre-effet de ces pratiques-là par lesquelles on voit des conditions abusives où le fournisseur donne de meilleures conditions non pas parce qu'il bénéficie de plus grosses contreparties, mais tout simplement parce qu'il ne peut pas faire poids à des alliances hyper puissantes.
D'autres supercentrales pourraient donc être inquiétées à l'avenir. En attendant, la commission va chercher des preuves d'une entente entre Casino et Intermarché. Si elles existent, l'amende pourrait atteindre 10% du chiffre d'affaires des groupes, soit plusieurs centaines de millions d'euros.
Maxime Fayolle. La journaliste du Monde, Ariane Chemin, est convoquée par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Une convocation liée à son travail sur les affaires d'Alexandre Benalla. Une enquête a été ouverte pour révélation de l'identité d'un membre des unités des forces spéciales. Le directeur de la rédaction du Monde exprime son inquiétude. L'intérêt public suppose de pouvoir enquêter sur les entourages et les liens entretenus par des collaborateurs de l'Élysée ou de Matignon, écrit Luc Brunner, quel que soit leur parcours antérieur. Il y a 2 mois, la vidéo de l'agression de Julia avait fait le tour des réseaux sociaux. Julia, c'est cette femme transgenre, agressée à Paris pendant une manifestation des Algériens de France contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Elle avait porté plainte pour agression homophobe. Cet après-midi, le tribunal correctionnel de Paris a condamné son principal agresseur à 10 mois de prison, dont 4 avec sursis et mise à l'épreuve. Mais d'autres personnes étaient également impliquées dans cette agression, Maud Calvez.
En sortant de l'audience, Julia le déplore. C'est dommage qu'il soit seul dans le box, il paye pour tout le monde. Un procès plutôt douloureux pour la victime qui a dû visionner à 2 reprises la vidéo de son agression, prise cette fois-ci depuis les caméras publiques. Face aux images, le prévenu, un jeune homme de 23 ans, reconnaît les violences mais pas les insultes. Ce serait Julia qui l'aurait provoqué et frappé en premier. Pourtant, questionne la procureure, on vous voit lui parler de façon très enthousiaste. Le prévenu répond « Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit, j'étais sous médicament ». Il s'excuse plusieurs fois auprès de la victime, du tribunal. Julia regarde franchement son agresseur, l'air un peu maladroit, une grande mèche brune sur le front qui tente d'expliquer son acte malgré tout. Le juge ne sait pas comment appeler Julia, une fois il, une fois elle, madame, monsieur. C'est au tour de l'avocat de la partie civile de plaider. C'est un procès symbolique, une première aussi importante pour des violences transphobes. Attention, répond le camp adverse, la justice n'est pas la morale. Il ne s'agit pas que mon client soit la victime du procès de la transphobie. Tout comme en face, ce n'est pas le procès de la fraude fiscale, mais bien celui d'un homme, en faisant référence au procès Balkany. Ce sera finalement 10 mois de prison, dont 4 avec sursis. Une peine qui ne ravit pas Julia, convaincue que l'emprisonnement n'aidera pas à lutter contre la transphobie. Mais le message est passé, ces violences sont condamnées.
Maud Calvez au Palais de Justice de Paris. Le scénariste de bande dessinée Wilfried Lupano refuse d'être élevé au rang de chevalier des arts et des lettres. Scénariste notamment des Vieux Fourneaux, série à succès parue chez Dargo et adaptée au cinéma. L'auteur a écrit une lettre ouverte au ministre de la Culture. Comment accepter la moindre distinction de la part d'un gouvernement qui en tout point me fait honte, écrit Wilfried Lupano. Et sur Facebook, il détaille les raisons politiques autant qu'artistiques de son refus d'être décoré, Catherine Dutu.
Et c'est par une anaphore, j'ai honte, que Wilfried Lupano égrène les motifs de sa colère. J'ai honte de ce que votre gouvernement fait des services publics, écrit-il au ministre. J'ai honte de ce gouvernement qui supprime l'ISF et des ressources aux associations qui prennent à leur charge les laissés pour compte à la place de l'État. Tout y passe, des violences policières lors des manifestations de Gilets jaunes à la gestion de la crise migratoire. Wilfried Lupano.
Les personnes qui m'ont mis sur cette liste ont pas lu mes livres, ou alors un petit peu en diagonale, parce que dans Les Vieux Fourneaux, dans le tome 5 là, qui s'appelle « Bon pour l'asile », mes personnages, qui sont une bande de vieux anarchistes malvoyants qui s'appellent « Ni Yeux Ni Maître », font une opération d'activisme joyeux devant l'ambassade de Suisse en s'habillant avec le costume traditionnel des Rupins, c'est-à-dire chapeau claque et queue de pie, mais en même temps en portant des gilets de sauvetage et se mettant dans un canot comme des réfugiés qui traversent aujourd'hui la Méditerranée pour venir jusqu'ici. Et donc ils demandent l'asile fiscal devant l'ambassade de Suisse. Donc voilà, il n'y a quand même pas grand-chose dans mon œuvre qui pouvait leur laisser penser que j'allais être ravi.
Et comme l'auteur de BD Jacques Tardy, qui avait refusé en 2013 la Légion d'honneur qui lui était proposée à l'époque par la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, Wilfried Lupano ne veut rien avoir à faire avec le pouvoir politique.
On est sur une démarche qui est en théorie purement culturelle. Je ne vois pas bien l'intérêt de l'intervention du politique. Ce serait peut-être bien de moderniser toutes ces institutions de distinction.
Wilfried Lupano propose de réformer le système d'attribution des décorations avec, pourquoi pas, un rôle accru accordé au personnel permanent du ministère de la Culture.
À Cannes, quelques 500 personnalités du cinéma de toute l'Europe lancent un appel pour aller voter aux élections européennes. Pour les signataires, dont Stephen Frears, Wim Wenders, Jacques Audiard et les frères Dardenne, ces élections représentent un enjeu crucial. Une Europe libre et démocratique, écrivent-ils, c'est aussi une Europe de la libre pensée et de la liberté d'expression. C'est pour nous un devoir de la défendre face à la montée des extrémismes et à toute tentation de minimiser l'importance de la culture, ciment essentiel de l'Union. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir Aurélie.
En France, la liste du Rassemblement National a pris un léger ascendant ces derniers jours sur La République En Marche et l'on s'attend, dans le prochain Parlement européen, à une baisse des conservateurs et des sociaux-démocrates au profit de nouvelles forces très critiques de l'Union européenne. On parle beaucoup des nationalistes. Quel est leur poids réel au sein de l'Union ?
Eh bien, force est de constater que ces partis critiques du fonctionnement européen, qu'ils soient nationalistes ou conservateurs, comme le PiS en Pologne, d'extrême droite, comme la Ligue en Italie ou populistes comme l'ANO en République tchèque, ont récemment marqué des points gagnés des élections nationales ou locales, nourris qu'ils sont par les crises sociales, économiques ou identitaires sur le continent. Des forces eurosceptiques qui gouvernent dans deux pays de l'Union, en Pologne et en Hongrie, sont au gouvernement en coalition dans sept autres, dont l'Italie, la Slovaquie ou encore la République tchèque, et encore très récemment l'Autriche. Et disons que dans la moitié des États de l'Union, leur score dépasse les 10%. D'où l'espoir qui leur est prêté et que veut nourrir l'Italien Matteo Salvini d'être la troisième force dans le prochain Parlement, une place sur le podium disputée avec les centristes. Ces partis n'entendent pas, bien sûr, attention, quitter l'Union. Tous ont constaté l'attachement à l'Europe de leurs concitoyens. Ce qu'ils ambitionnent, c'est de peser de l'intérieur sur l'Europe et ses politiques économiques ou sociales ou encore ses valeurs. Ils ont en commun de honnir ce qu'ils appellent le multiculturalisme et se voient en défenseurs d'une Europe chrétienne et blanche. Alors, jusqu'à présent, malgré leur score déjà respectable en 2014, ils n'ont plus vraiment réussi à s'unir, éclatés qu'ils sont dans trois groupes différents. Et il faut dire que ce qui les divise reste conséquent, ne serait-ce que la relation à la Russie, les politiques économiques, encore autre point d'achoppement entre les protectionnistes et les plus libéraux, la réponse à la crise migratoire qui oppose les pays de l'Est à l'Italie, par exemple, sans oublier que le parti de Viktor Orban siège au sein du PPE, le parti conservateur. Bref, la lecture qui sera faite du scrutin dimanche soir aura sans doute tendance à agréger des mouvements qui, de fait, ne pourront pas forcément, comme ils le proclament, travailler ensuite ensemble à la destruction de l'Union.
Marie-Pierre Véraud, le mercredi, nous suivons la campagne depuis un autre pays de l'Union. Nous partons ce soir en Roumanie, qui occupe actuellement la présidence tournante de l'Union européenne. Les observateurs s'attendent à un vote sanction pour le Parti social-démocrate au pouvoir. On se souvient des très grands rassemblements d'opposition l'été dernier. Le scrutin de dimanche est une nouvelle occasion de dénoncer une corruption grandissante et une conception de la justice également critiquée par la Commission et le Parlement européen. Vous revenez de Bucarest, Éric Chavroux, où plusieurs milliers de Roumains ont manifesté dimanche dernier en arborant les couleurs de l'Union européenne.
Oui, avec un grand cœur unissant le nom de leur pays à celui de l'Europe. Et quantité de drapeaux en écho à tous ceux accrochés dans les rues, car la Roumanie préside en ce moment l'UE, une première depuis son entrée en 2007. Le vote de dimanche permettra à beaucoup de Roumains de souligner leur attachement à l'Europe et surtout, d'après les politologues, condamnera à nouveau les socialistes du PSD au pouvoir. Les jeunes et les habitants des grandes villes sont particulièrement mobilisés, comme Carmen Abara, 33 ans.
Quand on est entré dans l'Union européenne, les Roumains, ils ont célébré. On a eu un horloge, on a compté les minutes et les secondes. Et puis, au long du temps, on a toujours cru que c'est la meilleure chance que la Roumanie a dans son avenir. Parce qu'on continue à croire dans le futur de l'Union européenne.
Cet attachement se traduit dans les sondages par une remontée des partis pro-européens, mais il n'est pas aveugle et la jeune mère de famille, qui aime dans son métier raconter aux touristes l'histoire de Bucarest et les évolutions de sa société, regrette une Europe trop timorée. La Roumanie est l'un des pays à recevoir le plus d'aides financières, mais elle attendrait aussi aujourd'hui des actes forts pour la démocratie.
On sent que ça bouge pas, donc on voit pas vraiment une implication du point de vue juridique. Dans ce qui se passe, on peut faire plus. Quand on voit que l'État démocratique est en péril, sinon ça va se désintégrer. Et ça, ce n'est pas le futur de la paix, parce que l'Union européenne a comme but la paix.
Des youtubeurs et des militants encouragent à voter et à défendre l'Europe, là où la participation en 2014 ne fut que de 32%, et là où le niveau de vie et les gouvernants préoccupent particulièrement.
Moi, je suis inquiète parce que la majorité de mes amis pensent à quitter la Roumanie si ce régime continue. On voit des grands actes de corruption. Et puis, les élites quittent le pays à cause de bonnes opportunités. Pas seulement les médecins, mais les informaticiens, mais aussi des professeurs roumains qui sont partis en Italie pour ramasser des fruits. Un professeur roumain avait moins de 400 euros par mois. Ramasser des fruits en Italie recevait 800 euros par mois.
Et dimanche, les Roumains pourront voter deux fois car le président de la République, pro-européen et de centre-droit, a aussi lancé un référendum contre la politique du PSD. Il vise l'interdiction de toute amnistie pour des faits de corruption et la fin du recours à des décrets d'urgence en matière de sanctions pénales.
Éric Chavroux, ce soir en France, un nouveau débat électoral diffusé sur France 2, France Inter et TV5. L'émission politique donnera la parole à 15 candidats aux représentants de courant. Un débat que va décrypter en direct le collectif d'universitaires Les Surligneurs. Pendant l'émission, une vingtaine de juristes et de politistes vont vérifier la légalité des propositions émises par les candidats. Le directeur de la rédaction du collectif explique le sens de cette initiative. Jean-Paul Marcus, également professeur de droit à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
C'est bien connu, hein, l'Europe est un bouc émissaire, ça ce n'est pas une considération juridique, mais ça se traduit juridiquement par le fait qu'on impute à l'Europe énormément de problèmes qui en fait ne relèvent pas de la compétence européenne. Donc voilà, on reproche à l'Europe de favoriser la dispersion fiscale, l'évasion fiscale, la compétition fiscale, etc. Or l'Europe n'a très peu de compétences en matière fiscale. Donc la solution dans ce cas-là, elle est soit plus d'Europe du tout, soit plus d'Europe. Et c'est tout le paradoxe, hein, quand des listes comme LFI voudraient harmoniser l'impôt sur les sociétés, en réalité elles réclament beaucoup plus d'Europe. Notre idée à travers une meilleure compréhension du discours politique, c'est d'avoir un meilleur sens critique et donc une réconciliation des personnes avec le politique. C'est très ambitieux, mais quelque part, c'est remettre le droit un peu dans le jeu politique, dans le discours politique, et en même temps qu'on remet le droit dans le discours politique, on comprend mieux la politique.
Jean-Paul Marcus du collectif Les Surligneurs, joint par Steven Gouaillet. 42 pays prennent des engagements pour éviter les risques de dérives liés à l'intelligence artificielle. Ce domaine de recherche se développe à vitesse grand V. Ces applications font déjà partie de notre quotidien, mais ces innovations créent des risques nouveaux. Tous les pays de l'OCDE et 6 autres s'engagent donc à respecter des principes sur l'intelligence artificielle. Et c'est une première, Marie Vienno.
Les systèmes d'intelligence artificielle ne datent pas d'hier, mais ils attirent de plus en plus de capitaux et leurs applications paraissent désormais sans limite. Si bien que certains experts évoquent le Far West pour désigner le cadre sans cadre, justement, dans lequel se développent ces recherches. Comment s'assurer que les intelligences artificielles ne vont pas aller à l'encontre des hommes et femmes qu'elles sont censées servir? C'est le défi auquel réfléchit un groupe de travail sous l'égide de l'OCDE depuis 3 ans et qui a donc abouti à ces principes. Premier d'entre eux, s'assurer que l'intelligence artificielle serve la croissance inclusive, le développement durable et le bien-être, que ses valeurs soient centrées sur l'humain et l'équité. Deuxième principe, que les systèmes développés soient transparents et explicables, autrement dit que les humains puissent les comprendre, qu'ils soient sûrs et robustes, c'est-à-dire que les données personnelles utilisées soient en sécurité. Et dernier principe, que ceux et celles qui mènent les recherches en intelligence artificielle soient responsables. Ce qui ne veut pas dire qu'ils seront tenus responsables en cas de problème d'une de leurs inventions, car les principes adoptés aujourd'hui sont des lignes directrices, mais ils ne sont pas contraignants.
Pas contraignant, donc les pays qui adhèrent à ces principes peuvent s'en inspirer pour élaborer des réglementations ou pas. Malgré tout, Anne Carblanc, chef de la division numérique à l'OCDE, croit à l'impact de ces principes dans le futur.
Les principes ne sont pas contraignants d'un point de vue juridique, mais ça n'est pas juste des suggestions comme ça. L'OCDE a un système de vérification de la mise en œuvre des principes qui représentent, eux, un engagement politique de les mettre en œuvre. Personnellement, je ne pense pas qu'on doit se demander maintenant ce qu'il faut réglementer. Ce que l'on recommande véritablement, c'est que les principes de valeur que l'on énonce soient respectés dès le stade de la recherche et le développement, et tout au long du cycle de vie de l'intelligence artificielle. Ce que l'on veut, c'est qu'il y ait une attention forte des gouvernements, mais aussi des acteurs de l'intelligence artificielle, au respect de ces principes. Il faut qu'on comprenne, au fond, quels sont les ingrédients qui ont été utilisées, les bases de données, la logique qui permet à l'algorithme d'arriver à une conclusion. Et il faut qu'on comprenne le contexte dans lequel c'est fait. Par exemple, l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle aux États-Unis par certains juges peut poser problème. Ce n'est pas forcément explicable la raison pour laquelle les recommandations d'intelligence artificielle vont plutôt vers la condamnation de certaines personnes dans des populations qui sont minoritaires ou qui sont plus vulnérables.
Anne Carblanc au micro de Marie Viennot. Demain jeudi, les nuages gagneront l'ensemble du pays avec des averses sur le relief des Pyrénées, des Alpes du Sud et de la Corse. Au lever du jour, il fera 5 à 16 degrés. Les maximales seront en hausse, 18 à Cherbourg, 23 à Strasbourg et Paris, jusqu'à 27 à Nîmes. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.